Émission d'en jazz sur les ondes de 102.1 Boulevard. Meilleure façon de nous écouter, l'application Boulevard. D'ailleurs, télécharge-les. Active les notifications, tu pourrais gagner des prix. C'est sur App Store et Google Play Store. Vous pouvez nous écouter aussi via la web radio blvd.fm. Vous pouvez également aller réécouter les meilleurs segments de l'émission, dont le caucus avec Antonine Iaccarini, qui vient de se dérouler du lundi au jeudi, de midi à 12h30. On est également sur twitch.tv/blvd/fm et par texto 418-971-1021. Puis les petits haut-parleurs intelligents, parce que vous savez comment on dit ça, non?
BLVD-1021.
Et voilà, BLVD-1021, et tu vas pouvoir nous écouter sans problème. Météo, moins 7 degrés à l'heure actuelle, moins 14 avec le refroidissement éolien, moins 13 demain, possibilité d'averse de neige, et il annonce moins 28 cette nuit, Pascal. Ouf! On va sortir la grosse couverte pour dormir.
Oui, ça va être le temps de se réchauffer puis aussi de brancher leur voiture. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui branchent
leur
voiture.
C'est vrai,
moi,
ma vieille voiture, je la branchais, tu as raison. Moins 7 degrés samedi, moins 10 ensoleillé pour dimanche. Donc, l'hiver est bel et bien amorcé au Québec en ce beau mois de décembre. Pascal, je regarde présentement la télévision. France-Hélène Duranceau qui s'exprime devant les médias. C'est simple, on a décidé de sortir de la table des négociations du côté de la Fédération des médecins et praticiens du Québec. Donc, on est de retour à la case départ.
Exact. On a tenté de renégocier, ça n'a pas fonctionné. Alors, on a claqué la porte. C'est un peu ça, en fait, qu'il faut comprendre la situation actuellement qui est reliée au projet de loi 2. Réfifié aussi du côté de l'Assemblée nationale, il y a Pascal Bérubé qui est sorti dans les dernières heures et qui a pointé du doigt à la ministre Caroline Proulx parce qu'elle a pointé, elle, du doigt la conjointe de Pascal Bérubé suite aux propos de Paul Saint-Pierre Plamondon. Il a dit que c'était une honte, une partie substantielle du milieu culturel québécois, que la vacuité intellectuelle et l'appleventrisme sont franchement gênants au niveau de tout ce qui se passe dans le culturel. Alors, c'est des propos qui sont quand même importants. Et Caroline Proulx a pointé du doigt Pascal Bérubé en disant « J'ai bien hâte de savoir ce que la conjointe de M. Bérubé en pense, celle qui fait partie de l'Union des artistes et qui, assurément, fait partie du palmarès culturel. » Elle dit « Je serais très curieuse d'entendre le député de Matane Matapédia, dont la conjointe est une productrice télévisuelle extraordinaire qui produit de grands reportages à la télé publique du Québec, comment lui réagit et comment sa conjointe a réagi à la lumière des déclarations de son propre chef, Paul Saint-Pierre Plamondon. » Faut savoir qu'il y avait une panoplie de qualité qu'elle lui donnait dans sa prise de parole, mais pour M. Bérubé, qui a toujours dissocié sa vie privée et sa vie professionnelle, ça a été un affront direct en disant « Ne mêlez personne d'autre que ceux qui sont en politique dans le dossier. »
Exactement. On écoute justement ce mini-réfifi. Premièrement, Caroline Proulx, que vous allez entendre, et par la suite, Pascal Bérubé.
En fait, je serais très curieuse d'entendre le député de Matane-Matapédia, dont la conjointe est une productrice télévisuelle extraordinaire, qui produit de grands reportages sur la télé publique du Québec, comment lui réagit ou comment sa conjointe a réagi à la lumière des déclarations de Paul Saint-Pierre Plamondon. J'ai très hâte d'entendre les commentaires. Comment sa conjointe va faire pour aller chercher des subventions?
Ça me heurte profondément qu'on utilise ainsi ma conjointe qui est productrice et qui a une carrière grâce à son talent et ses efforts. Je l'aime. Personne ne va s'attaquer à ma conjointe. Elle devrait s'excuser. En plus, je vois l'extrait sourire en coin. S'attaquer à ma conjointe qu'elle considère comme une amie. Écoutez, j'ai jamais vécu ça en 18 ans de vie politique. D'utiliser ma conjointe pour m'attaquer ou attaquer ma formation politique, ça passe pas.
Alors, bref, c'est un dossier qui est à suivre, mais Paul Saint-Pierre Plamondon a mis le feu partout. Pascal, c'est vrai, Grim?
Oui, c'est parti. Celui qui désirait sûrement pas trop attirer l'attention négative en ce moment a réussi quand même à faire parler de lui négativement aujourd'hui.
Exactement. 39% dans les sondages, je pense qu'il aurait pu... tu sais, comme au Monopoly, là, on passe go, on réclame 200, puis pas trop parler.
Exact. Et oui, souvent, c'est la stratégie.
Il aurait dû se tenir loin d'une controverse.
Il y a quelque chose qui a été rattrapé des mains du ministre, en fait, du ministre qui est connu pour parler un peu plus maintenant. Le ministre Roberge, donc, qui est responsable des institutions démocratiques. Et avec ce qui se passe au Parti libéral, il a décidé d'aller chercher un petit peu de capital politique avec le gouvernement Legault qui se passe un petit peu moins bien, là, qui passe un peu moins bien dans les intentions de vote et dans le cœur des Québécois en ce moment. On a pris cette crise au PLQ puis on a dit oh, on va déposer un projet de loi, nous, contre les fameux brownies. Hein. On a pris un peu le manque de crédibilité du PLQ puis on a dit ben, nous autres, on va s'en donner en faisant en sorte qu'on veut déposer un projet de loi demain qui vise à empêcher qu'on puisse donner de l'argent à une personne pour acheter son vote dans le cadre d'une course à la chefferie d'un parti politique. On s'entend que c'était pas depuis cette dernière situation que ça existait, cette façon de faire-là. Moi, je le vois, puis je vous écoutais dans le caucus, Iacarini, si j'avais mis mon grain de sel, c'est celui-ci. C'est vraiment du capital politique qui est en train de se faire par M. Roberge. Selon mon opinion personnelle, il est en train de se dire comment est-ce que la CAQ peut briller dans le fait que
ouais, tu vois,
le Parti
moi,
libéral ne brille pas.
Je suis en désaccord parce que j'ai l'impression que ces fameux brownies-là s'étaient passés sous le radar de tout le monde. Et quand les textos sont arrivés, tous les partis politiques ont dit « Ben voyons, ça n'a pas de sens que ça ne soit pas légiféré. »
Ben peut-être cette situation-là, mais la façon de faire existait déjà. Ça avait été déjà vu, c'est des choses qui s'étaient déjà passées. On appelait déjà un brownies le billet de sang parce que ça existait.
Ouais.
C'était des choses qui étaient connues. Puis ils ont vu une situation être livrée sur un plateau d'argent et ils se sont dit « Comment nous, est-ce qu'on se fait briller à ce moment-là? » Déjà, ouais. On nécessite d'avoir un petit peu plus...
À la différence que... Ça se faisait dans l'illégalité pour des élections, mais là, c'était légal pour des élections de chefferie.
Oui.
Fait que là, on va venir le rendre illégal avec
exactement.
La loi.
Exactement. Alors, c'est un peu une façon de se faire une belle jambe là-dedans, puis de, dans un genre de entre-deux lignes, dire « Nous autres, on laisserait pas passer ça. » Ça arriverait jamais au sein de la CAQ. Mm-hmm. Vous voyez, le PLQ est corrompu. Vous voyez, le PLQ a des problèmes avec sa façon de faire. Moi, je le vois un peu comme
ouais,
ça.
Oui, de l'autre côté, c'est demandé à l'unanimité, là, quand même, par les autres partis.
Et c'est, ben oui, ben c'est sûr que tout le monde va clairement vouloir aller chercher son grain de sel là-dedans, puis tout le monde doit être en accord avec la vertu en ce moment, puis ça fait couler le PLQ. Pourquoi pas? Hein? C'est ça,
yes,
la politique.
Let's go!
Collision à Issoudun, il y a un camion rempli de colis Amazon qui a été éventré. Si vous avez commandé des choses, hein? Vendredi fou, Cyber Monday, on le sait, c'est assez percutant à quel point Amazon est capable de faire de l'argent dans ces journées-là. Et justement, c'était le cas parce qu'il y avait deux camions dans le Binière qui partaient avec des centaines de colis Amazon et il y a eu une violente collision justement, puis il y en a un de ces camions-là qui est entré justement en face-à-face avec un autre, puis ils se sont retrouvés sur la chaussée. L'affaire, c'est que ça a tout été déployé sur l'autoroute. Donc, un des deux conducteurs a dû être transporté à l'hôpital pour traiter des blessures mineures. C'est la très bonne nouvelle dans tout ça. Mais il y a eu du ralentissement sur la route parce que ben, les colis étaient partout. Alors, si vous voulez un genre de feedback sur ce qui arrive avec vos cadeaux de Noël ou vos commandes, va falloir directement parler à Amazon puis suivre vos colis, peut-être qu'il était dans ce camion-là, qui a fait une collision avec un autre ce matin. Nouveau cas de rougeole au Québec, donc il a été déclaré dans la grande région de Montréal. La personne infectée se trouvait au centre d'urgence pédiatrique du côté de Saint-Eustache et c'est le 28 novembre qu'on a eu la nouvelle. Il faut faire attention avec cette nouvelle-là, il faut le prendre au compte-gouttes, mais quand même, il faut aussi donner du temps dans l'actualité parce que vous le savez, la rougeole, c'est une maladie qui est très contagieuse. Souvent, c'est de la fièvre, de la toux, écoulement nasal, les yeux rouges, larmoyant, des choses qu'on connaît finalement.
Ouais.
Mais c'est accompagné d'une éruption cutanée. Et c'est là où ça devient important aussi de voir s'il y a des taches rouges, des plaques irrégulières sur des corps. Ça apparaît environ 3 à 7 jours après le début des symptômes. Et c'est important parce que c'était une maladie qui était presque éradiquée ici avec la vaccination. Puis là, vu qu'il y a eu un petit peu moins de popularité hein, au niveau de la vaccination, c'est en recul.
Allez faire vacciner vos enfants.
Et je termine avec Mark Carney qui doit rencontrer Donald Trump brièvement demain. C'est une nouvelle qui vient de tomber, donc le premier ministre canadien. Va-t-il réussir à avoir une conversation efficace avec le président américain? La question se pose. Par contre, c'est en marge d'un tirage au sort de la FIFA qui vont se rencontrer brièvement. Il y a le bureau du premier ministre qui a indiqué à Radio-Canada que les deux dirigeants vont se rencontrer. Ça va se faire dans la capitale fédérale américaine, au centre Kennedy. Il va y avoir justement ce tirage au sort de la Coupe du monde de football 2026. Et Mark Carney désire s'entretenir, entre autres, aussi avec la présidente mexicaine. Et il tente, bien que mal, de faire une différence dans l'économie canadienne par ses rencontres.
Oui, exactement. Le tirage de la FIFA, Pascal, c'est très important pour le Canada. Parce que le tournoi se déroule Canada-États-Unis-Mexique, le prochain tournoi 2026. On a décidé de faire ça pour ne pas dépenser des milliards et des milliards de dollars en infrastructure. Mm-hmm. Parce que un des derniers avait eu lieu au Brésil, puis le Brésil s'est carrément endetté avec ce mondial-là. Mais le Canada, là, demain, là, ça joue gros. Parce qu'il pourrait se retrouver dans leur groupe avec l'Italie, 12e au monde. Mais il pourrait aussi se retrouver avec un groupe avec la Jordanie, le Cap-Vert et le Ghana, qui sont tous classés 66e, 68e et 72e au monde. Donc, il faut suivre ça attentivement. À compter de 10h30 demain matin, le Canada est classé 27e au monde. Donc, s'il se retrouve avec Jordanie, Cap-Vert et Ghana, bien, on va se dire, okay, mais le Canada a des bonnes chances de passer en quart de finale.
On est de plus en plus fort à chaque année.
Oh que oui!
Mais alors, merci à l'immigration aussi.
Hein, oui, ben, vraiment, clairement.
Énormément aidé.
Il y a énormément de joueurs issus de l'immigration dans, oui, dans notre équipe canadienne. Donc, ça va être un tirage à surveiller demain pour ce mondial qui aura lieu à l'été 2026. Parlant du Canada, on va aller parler de bâtir Maison Canada avec Gabriel Giguère, notre chroniqueur économique qui provient de l'Institut économique de Montréal et est analyste senior. Gabriel, comment vas-tu?
Ça va très bien.
Good. Gab, je te fais écouter Mark Carney lorsqu'il a annoncé justement, puis là moi je ris toujours parce que je l'appelle encore bâtir Maison Canada.
Maison Canada va transformer la façon dont notre pays augmente l'offre de logements. Bâtir plus vite, bâtir plus intelligemment et bâtir à moins de coûts. Maison Canada sera le guichet unique du logement abordable et accélérera les grands projets immobiliers pour les mettre rapidement en chantier. Cette initiative jouera un rôle clé dans notre plan visant à doubler le rythme de construction de logements au cours de la prochaine décennie.
Bon, on donnera pas une bonne note pour le français de Mark Carney, Pascal.
Ça s'améliore, par exemple, ça s'améliore. Il se reprend aussi.
Mais là, Gabriel, ce qu'on apprend de la part du directeur parlementaire du budget, c'est que on est loin de la note de passage pour Maison Canada. On voulait 500 000 mises en chantier annuellement, puis c'est quoi? On va en avoir à peine 25 000?
Ben, il y a deux choses à dire. La première des choses, évidemment, ça passe pas le QLF. Ça, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté. La deuxième des choses, effectivement, là, tu sais, c'est un 30-40 secondes de clip qu'on entend le premier ministre essentiellement nous vendre de la pensée magique, nous expliquer que le gouvernement fédéral avec Maison Canada ou bâtir Maison Canada sera capable de faire doubler les mises en chantier, ce qui est une vue de l'esprit très concrètement. Le directeur du bureau parlementaire du budget nous l'a dit là hier avec son dépôt de rapport. En fait, ce qu'il dit, c'est que avec la première enveloppe de 13 milliards de dollars que Maison Canada aura, on va plutôt en 5 ans construire 26 000 logements. Donc là, faut juste comprendre en ordre de grandeur. Quand on nous vend en élection, écoutez, on va doubler le nombre de mises en chantier au Canada. Si on fait une règle de pouce à peu près, on est aux alentours de 250 000 mises en chantier. Fait que ce que ça veut dire concrètement, c'est que si Maison Canada vient faire doubler les mises en chantier, ben, ce serait un autre 250 000 de plus par année. Là, ce qu'on comprend, c'est que c'est 26 000 sur 5 ans. Donc, on comprend qu'on nous a vraiment vendu absolument n'importe quoi en campagne électorale. On n'y arrivera pas. Et 26 000 logements, c'est pas ça qui va faire une grande différence, là. Mark Carney s'est fait questionner sur la question, plutôt sur cet élément-là, puis le rapport hier. Et ce qu'il expliquait, c'est oui, mais si vous regardez en note de bas de page du rapport, on parle de 83 000 financements. Mais le diable est dans les détails. Parce que ce qu'on vient faire avec bâtir Maison Canada, c'est justement cette chose de dire, nous, on va financer là 80-quelques mille logements. Mais le directeur du bureau parlementaire dit, attendez un petit peu, là. Quand on regarde votre financement, il y a deux types de financement. Il y a ce qu'on appelle du financement causal, qui veut dire que le financement fait en sorte qu'on vient construire un logement. Et il y a du non-causal. Et sur 83 000 logements financés, il y a juste 14 000 logements de causal. Donc, on nous explique là qu'on contribue, mais on n'a même pas besoin de l'argent du fédéral pour l'immense majorité des constructions. Ça se ferait quand même. Ouais, donc, on nous a vendu n'importe quoi.
C'est ça. Mais là, tu sais, j'ai déjà vu des promesses ne pas être tenues, des promesses fausses en campagne électorale. Mais là, passer de 500 000 à 14 000, Gabriel, c'est complètement mentir à la population.
C'est même pas se tromper, là.
Non, non, c'est ça. C'est, on a pris... Ben, je reprends ce que tu dis, Pascal, et tu me corriges. On a pris les gens pour des valises. On a décidé qu'on y allait avec un nombre impensable juste pour se faire élire. Je me trompe
ou
pas.
Ou encore,
en
on a mal évalué quelque chose, puis c'était clairement sur le chemin, parce que je peux pas croire qu'on a pogné un chemin où il y avait quelque chose qui nous en empêchait à ce point-là, puis que ça a coupé autant de logements.
Ben, tu sais, je me dis, est-ce que c'est parce qu'on a fait aucune analyse et qu'on a dit un peu n'importe quoi, ou on a fait une analyse rigoureuse et on n'a pas trouvé personne pour nous expliquer que d'atteindre 2 % de sa cible, c'est pas quelque chose d'acceptable. T'sais, moi, je laisserai le premier ministre et le gouvernement nous répondre à ça. Mais c'est pas la première fois qu'on voit des échecs dans le monde occidental, de gouvernements qui se prennent pour des promoteurs puis qui se mettent le doigt dans l'œil. On a fait un rapport un petit peu plus tôt cette année, puis on s'est dit, ben, on parlait beaucoup de Maison Canada au sein du gouvernement fédéral, et on s'est retourné à l'international. On est allé regarder en Nouvelle-Zélande parce qu'il y a un programme connu qui s'appelle Kiwi Build. Puis ça, en gros, c'est le gouvernement qui disait, inquiétez-vous pas, il y a une érosion de l'abordabilité du logement chez nous. On va construire 100 logements en 10 ans. Et quand on regarde la progression des logements, on a à peine atteint 3 % de la cible. Il y avait des journalistes à la boutade qui disaient, en Nouvelle-Zélande, avec ce rythme-là, on va arriver à notre objectif dans 436 ans. Tu sais, 436 ans, là. C'est une farce, mais tu sais, tu rajoutes 50 ans là-dessus, puis c'est la distance entre aujourd'hui puis l'arrivée de Jacques Cartier au Québec. Donc, on comprend évidemment que c'est pas ça au Canada, mais ça nous donne une vue de grandeur sur à quel point le gouvernement et les gouvernements sont incapables de jouer le rôle du privé. Ça, va falloir qu'on l'accepte.
Mais Gabriel, je t'arrête. Je t'arrête parce que j'ai une question qui va paraître peut-être stupide. Ça se peut-tu que quand c'est un projet gouvernemental, il y en a qui pèsent sur le crayon aussi, puis quand ils ont évalué leur projet, il n'y avait pas nécessairement approché des gens, donc il n'y avait pas la somme explosée par des entrepreneurs ou des gens ou des vendeurs de matériaux, des fournisseurs qui étaient devant eux, puis se sont fait avoir par ce monde-là en disant « c'est un projet gouvernemental, le gouvernement va devoir payer le prix qu'on met sur le papier ».
Alors, c'est pas impossible qu'il y ait une un petit élément de ça dans la réponse, mais quand on promet 250 000 pratiquement contribuer à la construction du double, donc à 250 000 logements, et qu'on arrive à 26 000 sur 5 ans, c'est tellement petit par rapport à la promesse, à l'ambition de la promesse, que ça, c'est très, très loin de cet élément-là. Là. Je pense que fondamentalement, le gouvernement aurait dû regarder en Grande-Bretagne, il y a eu d'autres flops où le gouvernement voulait se prendre pour le marché privé en Nouvelle-Zélande. Et là, je pense que c'est très, très clair. Collectivement, on comprend que le gouvernement nous a expliqué quelque chose de pratiquement impossible, là. T'sais, même le gouvernement le comprend aujourd'hui avec ce rapport-là. On peut essayer de faire des contorsions en nous expliquant que on va financer 80 quelques mille logements sur 5 ans, mais quand c'est du financement qui aurait été construit de toute façon le logement, c'est très difficilement justifiable d'expliquer un endettement des prochaines générations pour construire du logement qui aurait déjà été construit. Fait que dans ce contexte-là, si j'étais le gouvernement, si je faisais partie du gouvernement fédéral, je serais pas serein face au rapport, là, parce que ça vient quand même dire très concrètement que la promesse électorale, elle sera jamais remplie, mais plus encore que c'est un peu de la dilapidation d'argent public. Et c'est là qu'on voit souvent que, ben, il y a deux éléments. C'est là qu'on voit que les programmes politiques ne répondent pas. C'est pas important les intentions, c'est les résultats, et on est très loin des intentions initiales. Mais c'est également un autre élément, je pense, qu'on doit se rappeler, c'est que les promesses politiques lors d'élections n'engagent que ceux qui y croient et pas ceux qui les disent, malheureusement. Et donc, on comprend que ça arrivera pas. Et on peut pas se fier au gouvernement fédéral pour ça. Je pense plutôt que c'est là qu'on doit revenir à la base, de dire, ben, en réalité, c'est les délais de permis, c'est le zonage restrictif, c'est également les taxes au développement qui auront une incidence beaucoup plus importante que le gouvernement qui se prend pour un promoteur privé.
Vois-tu un auditeur qui nous écrit, il y a plein d'entrepreneurs qui peuvent en faire à moindre coût des logements. C'est les villes et les gouvernements qui mettent des bâtons dans les roues avec leurs lois et leurs règlements. C'est tellement bien dit. Merci à cet auditeur. Tu parles d'intervention mentionniste, Gabriel, donc ça me fait penser à l'économie au Québec. Parce qu'avec la CAQ, on est habitué de voir un gouvernement qui intervient partout et qui tente de diriger le marché. François Legault nous est arrivé quand il nous a présenté sa vision économique avec un beau PowerPoint en disant « Regardez comment on est meilleur que l'Ontario ». Mais on n'est plus meilleur que l'Ontario, Gabriel.
On n'est plus meilleur que l'Ontario. On apprenait ça plus tôt cette semaine. Le Conference Board du Canada nous présente les projections 2025-2026 de la croissance économique et le Québec est au bas-fond des provinces du Canada.
Attends, mais au bas-fond des provinces, attends, là. Et Terre-Neuve, là, c'est endetté à mort puis ils ont besoin de Churchill Falls. Tu ne viendras pas me dire qu'on est en arrière de Terre-Neuve?
En matière, ben, on s'entend, on parle de croissance économique. Puis tu serais même surpris de voir que Terre-Neuve et Labrador sera la province avec la meilleure croissance économique cette année à 2.
Oh,
à
ouais.
C'est contre-intuitif, mais à 2,2% de croissance économique contre un maigre 0,5% au Québec, on est ceux qui vont le moins se développer sur le plan économique en proportion, là, soyons clairs. Et l'année prochaine, un petit 0,9% comme en Ontario. Donc, les deux provinces vont pas bien, mais quand on regarde dans l'Ouest, quand on regarde là où on vient exploiter nos ressources naturelles, nos ressources énergétiques, ça va bien. En tout cas, pas mal mieux qu'au Québec avec des 1,7, 1,8, 1,9% de développement en PIB réel, là, donc en incluant l'inflation. C'est un développement qui est beaucoup plus respectable. Et là, ça vient nous poser plusieurs questions. Tu l'as dit d'entrée de jeu, la question de l'interventionnisme gouvernemental. On s'est beaucoup vanté auprès du gouvernement et même le premier ministre de cette fameuse moyenne au bâton, comme quoi ça permet et ça contribue au développement économique de la province. Mais ce qu'on constate, c'est que la direction avec laquelle on voit en fait le développement économique n'est pas glorieux, c'est pas impressionnant et c'est certainement pas la bonne vision économique à entreprendre. On en a parlé il y a quelques semaines lors du dépôt de la vision, mais il faut changer ce vieil interventionnisme qui au final donne un rôle au gouvernement qui ne devrait pas avoir de choisir les perdants et les gagnants, parce qu'en croyant choisir les gagnants, le gouvernement choisit souvent les perdants. Mais c'est aussi de voir un élément qui, je pense, on doit vraiment se poser la question au Québec. Comment ça se fait que c'est les provinces qui exploitent leur gaz, leur pétrole, les mines dans l'Ouest qui font de l'argent, puis le Québec, on est sur les lignes de touche.
On a ça, nous autres, on a du gaz naturel, Gabriel. On a de l'uranium.
On a du gaz naturel. Bien, on a les ressources naturelles qui nous permettraient de s'enrichir collectivement. Je regardais pour le plaisir. Tu me diras que c'est un peu bizarre, mais c'est vrai pareil. les salaires moyens par secteur et industrie.
Voyons, il est donc bien bizarre, Gabriel Giguère, Pascal CV, t'en penses quoi? Non, c'est qui ce chroniqueur-là? On raccroche!
Fait que tu sais, 150 000 $ de salaire moyen pour les gens qui travaillent dans le secteur gazier et pétrolier au Canada. Le salaire moyen au Québec en 2023, c'était plus aux alentours de 64 000. Fait que là, on est en train de pas permettre la création de salaires incroyable pour les travailleurs et les familles québécoises. C'est tellement de création de richesses.
Oui, mais Gabriel, c'est pas Hydro-Québec qui va tout nous gérer ça, là. On pogne 30 000 travailleurs du domaine forestier, on envoie ça à Hydro-Québec, on a un plan de développement de 150 milliards. Normalement, on devrait être meilleur que tout le monde.
Ben, c'est ça qui est drôle, c'est que nous, c'est quoi notre ressource qu'on peut vendre aux Américains, là, qu'on peut exporter? C'est l'électricité. Ben, je pense que tout le monde a vu dans les médias récemment que l'électricité, on est un importateur net à l'heure où on se parle. Mm-hmm. Normalement, on envoyait de l'électricité, puis d'ailleurs, c'est pour ça que Hydro-Québec aurait pas dû, là, soyons clairs, mais a signé certains accords de commerce avec les États-Unis, avec le Massachusetts notamment, pour exporter l'électricité. Puis aujourd'hui, avec les bateaux d'hydraulicité, là, il n'y a plus beaucoup d'eau, en fait. À tout le moins, il y a assez d'eau, mais il n'y a quand même pas énormément d'eau dans les réservoirs d'Hydro-Québec, pas comme d'habitude, en tout cas, ce qui fait en sorte qu'on importe plus qu'on exporte. Et là, on se dit, ben, on voulait exporter beaucoup d'électricité, ça contribue à notre PIB. Aujourd'hui, on fait plus vraiment ça. Ce qui fait en sorte, au final, que on exporte moins de ressources naturelles qu'on pourrait exporter. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir des politiques publiques, notamment énergétiques, qui viennent freiner la prospérité. Mm-hmm. On a tout sur le territoire. Je pense que c'est juste un changement de mentalité, un changement de vision économique, puis on va être pas mal plus riche que ce qu'on est au Québec.
C'est tellement bien dit, Gabriel Giguère. C'est toujours un plaisir de te parler à chaque semaine, même si tu nous décourages, hein, Pascal?
Oui, parfois c'est un peu
décourageant. Bâtir Maison Canada va atteindre 2% de sa cible. Ça va bien. en bon état, la campagne de Mark Carney.
Dans une crise
on a full de résultats. Puis là, bon, on apprend que la CAQ, ça fait 8 ans qu'ils nous tirent par le bas en matière économique. On t'aime quand même, Gabriel Jugard, je veux te le dire.
On continue. Même aussi, là, bonne journée.
Yes, on continue de brasser les affaires avec toi. Merci, mon chum. Salut. Hey, Pascal, c'est passé de quoi de bizarre à l'hôtel de ville? Parce que nous, on a interviewé Stéphane Lachance ce matin, dans Marceau le matin, ouais. OK? Puis là, on est revenu sur le budget, puis on a parlé un peu de tramway, puis plein d'autres affaires. Puis au début de l'entrevue, il nous a dit « J'ai justement un plénier sur le budget ce matin. »
Exact.
Donc, il nous a donné une entrevue aux alentours de 8h30. Je me disais « Bon, le plénier commence à 9h. » Puis normalement, c'est pas mal ça à l'hôtel de ville, si je me souviens de mémoire, les horaires. Mais là, on apprend dans les médias qu'il n'était pas là ce matin.
Oui, l'étude du budget a commencé, puis il y avait présentation aux élus de la part du service des finances, mais Stéphane Lachance n'était pas là. Le chef de l'opposition n'était pas là. Par contre, il était à 8h30 en entrevue avec
vous. Oui, puis là, tu sais, honnêtement, c'est ta première séance budgétaire comme chef de l'opposition. Il me semble que tu peux pas être à nulle part sauf au plénier du budget, là.
C'est un peu particulier. Peut-être qu'il y a des bonnes raisons, là. Mais c'est juste qu'en ce moment, c'est un peu nébuleux parce qu'on dit qu'il y avait des obligations personnelles qu'il avait même reporté 3 fois, justement, à cause d'obligations de la ville. Ouais. Alors, c'était comme maintenant ou jamais. Il ne pouvait pas reporter une autre fois, d'où son absence. Écoute, ça ne peut pas l'empêcher de reprendre ce travail-là. Mais il y en a qui se questionnent à savoir pourquoi il était en entrevue à 8h30. Est-ce que son obligation personnelle était après votre entrevue? Il a décidé de la faire quand même. C'est-tu un coup d'épée dans l'eau en ce moment, puis il y avait vraiment quelque chose d'important?
Oui, exactement.
La question se pose quand même, mais c'est nébuleux.
C'est nébuleux.
Il faut que ça soit sérieux.
Oui, et là, ce que je comprends aussi, c'est que finalement, Respect citoyen, mais Marc Roussin et Mélanie Sauvé étaient là.
Oui.
Mais ils sont arrivés en retard après la pause, puis ils ont juste posé une question.
Oui,
fait que là, c'est pas un bon matin pour Respect citoyen.
Non. Bien, M. Roussin a justifié son retard à la période de questions. Il dit qu'il était en débriefing avec les experts, qu'ils ne sont pas fiscalistes, alors qu'ils posaient des questions pour bien comprendre, pour être pertinents dans leurs questions, pour s'assurer d'avoir toutes les réponses. Écoute, ça aussi, ça se peut.
Oui.
Dans ce temps-là, moi, je me suis demandé quand même, est-ce qu'on peut demander un genre de petit report de la période des questions?
Exactement.
Point d'interrogation.
Non, en effet. Donc, mauvaise matinée pour Respect citoyen.
L'opposition n'était pas très oppositionnelle.
L'opposition n'était pas très en opposition côté budgétaire. Cet après-midi, c'est le maire Marchand qui va s'absenter parce qu'il rencontre Stephen Blaney à 14h30. Si j'ai bien compris, notre collègue Mathias Turcotte va être sur place, donc va pouvoir faire un résumé dans le retour de Gravel qui commence dès 14h.
Oui, très intéressant cette rencontre-là cet après-midi. Hein. Moi, je pense que l'interconnexion, oui, est importante dans les projets structurant à Québec et à Lévis. Ça fait des années qu'on en parle, autant au municipal qu'au provincial, un peu au fédéral quand même. Mais de voir deux maires de Québec et de Lévis s'entendre, on croise les doigts, ça fait plusieurs années maintenant qu'on n'a pas ça.
Et si ça peut arriver, c'est la très grande région de la capitale nationale de Chaudière-Appalaches qui va juste en bénéficier. On vient de parler d'économie. On va en bénéficier au niveau économique. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pascal CV, Vincent Marissal, ça te dit quoi, toi?
Vincent Marissal,
l'ex-député de QS.
Ouais, oui.
Que là, il flirte avec PSPP pour aller au PQ. Il était chroniqueur à presse. C'est quelqu'un d'important, tu penses, au Québec?
Ben, moi, je pense qu'il a laissé sa trace politique, là, peu importe ce qu'on lui reproche.
Excellent. On parle de ça avec Rémi Villemur. On va revenir évidemment sur la controverse en culture aussi. Parce que Rémi Villemur disait, hey, je viens de constater que QS a passé à travers une crise. Il était à 8% dans les sondages avant la crise, puis ils sont à 8% après. J'ai une théorie là-dessus.
Statu quo et il a une théorie.
Ouais, il m'a écrit « J'ai une théorie là-dessus, 3 petits points ». Est-ce qu'il veut me faire une théorie sur Vincent Marissal, nous faire? Est-ce qu'il veut nous parler d'autre chose de QS? On va découvrir ça après cette courte pause à l'émission On en jase à Boulevard 102. On en jase.